FI.
À l'écoute de RFI, il est 19h ici à Paris, 18h en temps universel.
RFI Soir.
Et c'est le grand journal du soir à présent. Bonsoir Adrien Delgrange.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous.
Et au sommaire, Paris et Téhéran qui n'ont pas réagi à l'appel d'Olivier Grondeau.
Ce Français détenu en Iran depuis maintenant plus de 2 ans fait entendre sa voix depuis ce matin pour clamer son innocence et demander sa libération. C'est l'ennemi des incendies, le vent attise les flammes à Los Angeles, des rafales à 100 km/h prévues sur la Californie alors que les incendies ne sont toujours pas éteints. Notre envoyé spécial nous attend. Monnaie d'échange de Volodymyr Zelensky, 2 soldats nord-coréens ont été faits prisonniers en Ukraine. Le président ukrainien se dit prêt à les libérer en échange de soldats, c'est le dossier de notre édition. Cette attaque meurtrière au Nigeria, nous l'avons appris qu'aujourd'hui, au moins 40 agriculteurs ont été tués hier par des djihadistes. Et puis, reportage dans ce journal à Mayotte. L'alerte rouge est levée, la rentrée scolaire est reportée.
Et puis, juste après cette édition, nous vous parlerons de ces soldats israéliens visés par des plaintes pour crimes de guerre. Ils sont notamment mis en cause en raison des publications qu'ils ont pu effectuer sur les réseaux sociaux, La Croix. Le journal La Croix se penche sur ce phénomène, nous appellerons nos collègues.
Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Il préfère prendre le risque de parler. Olivier Grondeau est sorti de l'anonymat aujourd'hui. Il est le 3e otage français détenu en Iran. Après plus de 2 ans de détention et l'échec des efforts diplomatiques pour le libérer, lui et ses proches ont choisi de médiatiser sa situation. Il lie son sort aux 2 autres otages français, Cécile Kohler et Jacques Paris. Tous sont dans un état d'épuisement avancé et au cœur d'un chantage politique qui ne les concerne pas, estime Olivier Grondeau, témoignage enregistré par ses proches et rendu public aujourd'hui.
Dans la situation, prendre la parole, c'est prendre un risque. Il y a risque, donc il y a espoir, et il m'en reste très peu. J'ai beau penser à la vie qui m'attendrait après, au retour. C'est un vieux rêve qui ne suffit plus à donner du sens à cette veille épuisante. Vous, qui avez le pouvoir d'influer sur cette affaire, d'où que vous soyez, entendez cette vérité extérieure à toute idéologie. Les forces de Cécile, les forces de Jacques, les forces d'Olivier s'épuisent.
Le témoignage du Français Olivier Grondeau enregistré depuis la prison d'Evin à Téhéran. Sa mère, Thérèse Grondeau, était l'invitée d'RFI à la mi-journée.
C'est Olivier qui l'a décidé, d'abord, de ne pas donner son nom. Et ensuite, il a voulu laisser un temps à la diplomatie. Et puis ensuite, un temps de réflexion. Et maintenant, le temps des médias. Et donc, maintenant, il a décidé de donner son nom. Il est fatigué. C'est la détresse, maintenant. Il en a assez épuisé. Il peut sortir de sa cellule et faire une petite promenade. Et il y a une bibliothèque, il peut lire. Et il a la possibilité de téléphoner, de nous téléphoner. Ça ne dure pas très longtemps, mais enfin, on peut échanger.
Pour comprendre comment un Français peut se retrouver détenu en Iran et condamné, qui est Olivier, votre fils? Un grand voyageur, c'est ça?
Oui, c'est un grand voyageur, c'est un poète, un écrivain. Il est loin de tout ce dont on l'accuse. Voilà, c'est pas lui du tout, quoi. On a emprisonné quelqu'un qui n'est coupable de rien du tout.
Propos recueillis à la mi-journée par Nicolas Falaise. Olivier Grondeau est donc condamné à 5 ans de prison. Ce soir, ni la France ni l'Iran ont réagi.
Les Libanais, cela fait déjà quelques jours qu'ils ont un nouveau président et depuis aujourd'hui lundi, eh bien, ils ont un nouveau Premier ministre.
Il s'appelle Nawaf Salam, nommé par Joseph Aoun. Nawaf Salam était jusqu'à présent juge, le président de la Cour internationale de justice de l'ONU. Il se trouve actuellement à l'étranger et revient demain au Liban, précise la présidence. Il succède ainsi à Najib Mikati.
Il est 10h, bientôt 5 minutes, à Los Angeles, où nous nous rendons à présent et où les incendies se poursuivent, Adrien.
Les feux continuent de ravager la deuxième ville américaine, détruisant des quartiers entiers les uns après les autres. Après quelques jours d'accalmie, le vent devrait à nouveau souffler. Nous sommes avec notre envoyé spécial sur place, Guillaume Naudin. Bonjour.
Bonjour.
Les pompiers continuent de lutter. Ils s'attendent encore à des journées bien difficiles.
Exactement. Il ne faut pas baisser la garde, disent-ils ce matin ici. Ils s'attendent à ce que les vents Santa Ana, les mêmes que ceux qui ont donné cette ampleur au brasier, leur rendent la tâche plus difficile. Les météorologues ont mis en place une alerte rouge et prévoient des vents allant de 80 à plus de 100 km/h. C'est moins que la semaine dernière, mais c'est suffisant pour renforcer le risque et pour gêner les opérations aériennes. Plus de 8000 pompiers venus de Californie, du reste du pays, mais aussi du Canada et du Mexique, combattent les flammes. Ils ont fait des progrès sur l'incendie le plus à l'est, le feu Eaton, qui a ravagé Altadena. Certains ordres d'évacuation ont été réduits dans ce secteur, mais globalement, le retour des déplacés ne se produira pas avant jeudi. Ils doivent prendre leur mal en patience avant de rentrer chez eux, pour les plus chanceux, ou de constater des dégâts pour ceux dont la maison a brûlé. C'est que les pompiers continuent leur travail sur place, à la recherche de victimes. Nous savons que vous aimeriez rentrer chez vous, mais nous sommes littéralement en train de rechercher les restes de vos voisins, disent-ils. Le bilan pour l'instant est de 24 morts, mais il devrait augmenter significativement, puisqu'on est toujours sans nouvelles, de 23 personnes.
Guillaume Naudin à Los Angeles pour RFI.
Allez, notre dossier à présent dans le grand journal du soir d'Adrien Delgrange, dossier consacré aux soldats nord-coréens au service de la guerre de Moscou contre l'Ukraine.
Séoul affirme que 300 soldats nord-coréens seraient morts, 2700 blessés, sur les quelques 10 000 envoyés se battre dans la région de Koursk, selon les services de renseignement américains, sud-coréens et ukrainiens. Ces dernières heures, Kiev diffuse une vidéo de deux hommes capturés dans la région de Koursk. Ces premières images de deux soldats nord-coréens prisonniers de guerre interrogent sur leur avenir, alors que Volodymyr Zelensky a assuré être prêt à effectuer un échange avec le président Kim Jong-un. Nicolas Roca, bonjour.
Bonjour Adrien.
Ces deux soldats prisonniers font l'objet d'une mise en scène de la part des renseignements ukrainiens.
Oui, dans une vidéo d'un peu moins de 3 minutes, on voit les deux soldats blessés sur des lits d'hôpital. Ce que vous entendez, c'est un soldat ukrainien traduit en coréen par un autre homme qui interroge les deux prisonniers. Ils semblent perdus, sous le choc, complètement interloqués. Ils répondent aux questions avec quelques mots simples ou bien en hochant ou secouant la tête. Ces extraits montrés par Kiev racontent l'histoire de deux soldats qui pensaient s'entraîner au combat dans des conditions réelles, mais qui ignoraient qu'ils allaient réellement se battre contre l'Ukraine ou bien voir leurs collègues mourir à côté d'eux. Un récit qui colle avec l'image de soldats nord-coréens utilisés comme de la chair à canon par l'armée russe. Mais le fait que l'image de ces hommes soit exploitée contrevient au droit international. La Convention de Genève, qui protège les prisonniers de guerre, précise qu'ils doivent être préservés de la curiosité du public, ce qui semble incompatible avec une vidéo partagée au monde entier.
Alors ces deux hommes, nous l'aurons compris, sont au cœur de cette communication de l'Ukraine, une communication menée par Volodymyr Zelensky lui-même.
Si Kim Jong-un se souvient de ses citoyens et est capable d'organiser un échange contre nos guerriers détenus en Russie, nous sommes prêts à transférer ces soldats.
Nicolas Roca, savons-nous si ces deux soldats souhaitent être échangés et retourner en Corée du Nord ?
Eh bien, très difficile de le savoir. Par définition, il est impossible de considérer que leur parole est totalement libre. Dans la vidéo, on leur pose la question, bandeau sur la tête, assis sur un lit, l'un d'entre eux secoue la tête de haut en bas lorsqu'on lui demande s'il veut rentrer en Corée du Nord. Le deuxième, blessé aux mains, lui, est allongé, il reste confus. On lui demande s'il se plaît en Ukraine. Il répond qu'il veut vivre ici avant d'expliquer qu'il se pliera aux règles, quelles qu'elles soient. Difficile d'imaginer toutefois, après ces images, que ces hommes puissent rentrer en Corée du Nord sans que eux-mêmes ou leurs proches s'exposent à un risque de torture ou bien d'être tués. La Corée du Sud, qui offre l'asile aux Nord-Coréens, précise aussi que ces prisonniers de guerre faisaient partie du Bureau général de reconnaissance, les services de renseignement militaire du régime.
Et enfin, que dit la Corée du Nord ?
Rien, Adrien. Elle ne reconnaît pas avoir envoyé des soldats se battre aux côtés des Russes et la propagande du régime reste silencieuse sur le sujet pour l'instant.
Nicolas Roca.
Et d'un point de vue économique, la guerre en Ukraine qui ne fait pas les affaires de Gazprom.
Oui, puisque le géant gazier russe est en grande difficulté financière. Gazprom annonce qu'il va supprimer environ 40% de ses postes, soit environ 1400 emplois qui vont disparaître. Anissa El Jabri, décision prise 2 semaines après la fin du transit de gaz russe via l'Ukraine, manière pour Kiev de limiter les revenus de Moscou.
Dans la lettre de la vice-présidente du conseil d'administration de Gazprom, lettre rendue publique par plusieurs médias russes, sont évoqués, je cite, « des défis qui nécessitent des délais de prise de décision réduits, la nécessité, je cite encore, d'éliminer les fonctions redondantes et les processus bureaucratiques excessifs ». Pourtant, les projets immobiliers de Gazprom pour son siège à Saint-Pétersbourg n'ont pas été annulés. Une première tour avait-elle fait beaucoup parler ? Ce gratte-ciel a en effet déjà coûté à l'entreprise environ 120 milliards de roubles, environ 1 milliard d'euros au cours actuel. Ce gratte-ciel sur les rives du golfe de Finlande est au total plus cher que les tours jumelles de la société pétrolière Petronas en Malaisie et que le plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa à Dubaï. Les travaux pour une deuxième tour ont eux déjà commencé cet automne. En 2023, pourtant, Gazprom a enregistré une perte nette de près de 7 milliards de dollars. Une première en plus de 20 ans. La tendance ne va pas s'améliorer. Selon des experts cités par le quotidien russe Vedomosti, la fin des livraison via l'Ukraine va amputer Gazprom d'environ 5 milliards d'euros de recettes annuelles, soit environ 6% de son chiffre d'affaires. Anis El Jabri, Moscou, RFI.
Sur le continent africain, l'attaque a eu lieu hier au Nigeria, mais nous l'avons appris qu'aujourd'hui, des djihadistes ont tué au moins 40 agriculteurs dans le nord-est du pays, selon un bilan officiel. Hier, dimanche, en fin de journée, des combattants de l'État islamique en Afrique de l'Ouest ont rassemblé des dizaines d'agriculteurs dans la localité de Doumba, située sur les rives du lac Tchad et les ont abattus. Nous y revenons dans une vingtaine de minutes dans Afrique Soir.
Et puis au Japon, un tremblement de terre de magnitude 6,9 dans la région de Kyushu.
Et des avis au tsunami d'une hauteur maximale d'environ 1 mètre ont été émis par les préfectures de Miyazaki et Kochi dans le sud du Japon. Aucune irrégularité n'a été signalée dans les centrales nucléaires, précisent les autorités.
Les vols directs entre la Libye et l'Italie ont repris après une pause de 10 ans.
Une liaison Rome-Tripoli assurée par une compagnie italienne deux fois par semaine. Le ministre italien des Affaires étrangères y voit le résultat des efforts constants des institutions et des acteurs économiques italiens pour resserrer les liens avec la Libye, décrite comme un partenaire stratégique. Nathanaël Vitran, c'est en tout cas une étape de plus dans le rapprochement entre les deux pays.
Cette reprise des liaisons aériennes assurée par la compagnie ITA Airways avait été décidée en octobre dernier lors d'un forum économique qui s'est tenu à Tripoli en présence de la chef du gouvernement italien Giorgia Meloni. Le quatrième voyage en Libye pour la tête de file de l'extrême droite italienne depuis son arrivée au pouvoir, signe de l'intérêt qu'elle porte à ce sujet. Il faut dire que le chaos libyen qui a suivi la chute de Muammar Kadhafi en 2011 a favorisé la traite des êtres humains et l'immigration illégale. Des dizaines de milliers de migrants et de réfugiés africains ont depuis tenté la traversée de la Méditerranée au péril de leur vie. En se rapprochant de Tripoli, Rome vise à la fois à favoriser le développement et la stabilisation de la région et à inciter les autorités libyennes à mieux contrôler leurs frontières. Pour le gouvernement installé à Tripoli et qui a toujours face à lui l'autorité rivale du général Haftar à l'est, c'est un soutien économique précieux. L'ancienne puissance coloniale est redevenue le premier partenaire économique de la Libye.
Nathanaël Vitran du service économie de RFI. L'archipel de Mayotte s'est réveillé ce matin en évaluant de nouveaux dégâts après le passage de la tempête tropicale Dikeledi.
Oui, une tempête qui s'est abattue sur le territoire un mois à peine le passage du cyclone Chido qui a dévasté le 101e département français. Inondations, boue torrentielle, malgré l'alerte rouge qui était toujours en vigueur ce matin et qui depuis a été levée, les habitants s'activent pour déblayer leur maison. Reportage RFI à Mayotte, Lisa Morisseau.
Au premier étage de sa maison, pendant la tempête, Raïs s'est senti pour la première fois en danger chez lui avec son fils. La rivière en contrebas est sortie de son lit pour gagner plus d'un mètre de hauteur en à peine une heure.
J'ai jamais eu peur de ma vie comme hier. La rivière était vraiment forte. Et ça menait toutes les choses qui venaient de là-haut, là, de grands arbres, de rechaussées là. Après l'eau rentrée, je me suis dit que la maison va tomber.
Dans le village de Msinkoura, les inondations sont courantes. Elles ont généralement lieu à chaque saison des pluies. Mais cette fois, elles ont été beaucoup plus fortes. En cause, les végétaux balayés par le cyclone Chido qui ont obstrué le passage de l'eau, entraînant des débordements. Dimanche, malgré l'alerte rouge qui imposait le confinement, des riverains comme Moussa sont venus aider à déblayer.
Et parfois, on était obligé de sortir malgré l'alerte rouge pour essayer d'aider, d'enlever des obstacles qui entravaient l'eau.
Pour l'instant, le bilan humain ne fait aucune victime, mais un mois après le cyclone Chido qui a détruit une grande partie du territoire, c'est un nouveau coup dur pour la population. Moussa.
Il y a un acharnement, j'ai envie de dire, et enchaîner tout ça en si peu de temps, c'est quand même compliqué. On a besoin de bouffer d'oxygène.
L'alerte rouge a été levée à 15h ce lundi, heure locale, mais Mayotte reste en vigilance orange. Lisa Morisseau, Mayotte, RFI.
19h15 à Paris, ainsi se referme ce journal international. Romain Ouzoui.
Ce grand journal du soir qui était présenté par Adrien Delgrange, merci à vous. Allez, dans les prochaines minutes, nous parlerons de ces soldats israéliens qui sont visés par des plaintes pour crimes de guerre. Ils sont notamment mis en cause en raison des publications qu'ils ont pu effectuer sur les réseaux sociaux. La Croix se penche sur ce phénomène. Nous appellerons nos collègues dans les prochaines minutes. Et puis, à 7 jours maintenant de l'investiture aux États-Unis de Donald Trump, qui sont les jeunes qui ont voté pour le candidat républicain ? Notre reportage à suivre à Atlanta. Pour l'heure, voici les sports. Bonsoir Olivier Pron.
Bonsoir Romain Ouzoui, bonsoir à tous.
Allez, on va parler tennis, on va parler handball, mais d'abord la voile. Le Vendée Globe, ça y est, touche au but.
Le tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Le Graal des marins, l'Everest des skippers, dit-on. Ils étaient 40 à s'être élancés à l'assaut des mers du Globe le 10 novembre dernier, à peine plus de deux mois plus tard. 64 jours pour être précis et quelques abandons. Le premier d'entre eux est attendu entre nuit et petit matin prochain. Charlie Dalin, qui a désormais une avance suffisante sur son second Johan Richomme pour ne plus être rattrapé à moins d'une avarie de dernière minute. Et la mer, c'est ainsi. Arrivée prévue donc entre 4h30 et 8h30, temps universel, sous les yeux de notre marin d'eau douce, à nous, Thomas de Saint-Léger.
Ça veut dire qu'on pourra suivre tout cela. Tennis, à présent, la suite aujourd'hui, c'est le premier grand chelem de la saison, le premier tour de l'Open d'Australie.
Et des victoires nettes en trois manches pour le numéro 1 mondial et tenant du titre, l'Italien Jannik Sinner, et pour Carlos Alcaraz, en quête à Melbourne du seul titre majeur qui lui manque. À 23 ans, c'est pas mal. Novak Djokovic en compte 10, lui, des victoires dans ce grand chelem australien. Le Serbe aussi est passé, mais en lâchant un set face au jeune Américain de 19 ans, Nishesh Basavaredi. 42 fautes directes pour Djoko, qui entame néanmoins avec succès donc sa nouvelle collaboration avec Andy Murray. L'ancien numéro 1 mondial, fraîchement retraité, entraîne désormais son ancien rival. Le Britannique était là, au bord du court tout à l'heure, pour épauler Novak Djokovic, qui a apprécié.
C'est une légende de ce sport. Il comprend les hauts et les bas que vous traversez sur le court. Je n'ai pas besoin d'expliquer les choses outre mesure, car il comprend tout de suite ce que je vis durant le match. Il me pousse constamment à comprendre ce que je ressens, ce que je traverse. Sans arrêt, il me soutient et m'encourage. Il est très doué pour cela. Il se soucie beaucoup de moi. Il met beaucoup d'énergie à essayer de me faire sentir bien sur le court. Je pense que c'est ce dont j'ai besoin, honnêtement. J'avais besoin de cette motivation supplémentaire. Et aujourd'hui, j'ai vraiment apprécié. C'est un super mec et c'est un grand plaisir de l'avoir avec moi au bord du court.
Novak Djokovic en route pour le deuxième tour, contrairement au grec Tsitsipas, éliminé donc ce matin. Côté français, fin de parcours pour Caroline Garcia, battue par la japonaise Naomi Osaka. Chez les garçons, c'est passé pour Benjamin Bonzi et Arthur Cazot.
Allez, comme prévu, on parle handball. À suivre demain le début du championnat du monde en Croatie, au Danemark et en Norvège.
Oui, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Cinq mois après son échec en quart de finale des Jeux Olympiques à domicile, l'équipe de France masculine repart donc en mission dans cette compétition. Une nouvelle page à écrire pour les Bleus, cette fois sans la star Nicolas Karabatic, retraité, et avec un nouveau capitaine, Ludovic Fabregas, qui aura pour objectif de porter les Bleus le plus loin possible pendant ce mondial. Solène Ravenel.
10 ans après ses débuts en bleu, Ludovic Fabregas disputera sa première compétition en tant que capitaine. Longtemps vice-capitaine, il a hérité du brassard légué par Luka Karabatic. À 28 ans, le joueur catalan veut mettre son expérience au service de son capitanat.
C'est une très grande fierté de pouvoir être le capitaine de l'équipe de France. Dans ces 10 ans, j'ai beaucoup appris. Je pense que j'ai beaucoup progressé aussi en tant que joueur et en tant qu'homme. J'ai eu la chance de côtoyer de très grands joueurs. Je me suis beaucoup inspiré d'eux. J'ai beaucoup appris à leur côté, que ce soit sur le terrain et en dehors. Et je pense que je vais essayer d'adapter tout ça au collectif qui est le nôtre aujourd'hui.
Un choix logique pour ses coéquipiers qui ont voté à l'unanimité pour confirmer ce capitanat. Elohim Prandi et Nedim Remili, deux autres piliers de cette équipe, ont vu l'évolution de Ludovic Fabregas avec les Bleus et sont tous les deux heureux du rôle de leur ami.
Dans ce collectif où on se connaît tous depuis très longtemps. Je pense qu'il a le caractère, qu'il a la détermination, l'éthique, les valeurs de cette équipe de France.
Ludo, c'est un leader naturel, pas forcément bavard à la base, qui a
bien développé ça ces derniers temps, mais ça a toujours été un leader naturel, que ce soit sur le terrain, que ce soit en dehors, dans sa manière de parler, d'être posé, de savoir s'affirmer aussi, par ses mots et par son calme.
Exigeant pour cette équipe de France, mais aussi pour lui-même, c'est d'abord sur le terrain que Ludovic Fabregas compte montrer l'exemple.
Solène Ravenel. Premier adversaire des Bleus dès ce mardi, le Qatar, 17h temps universel. Romain, suivront le Koweït et l'Autriche. Et puis un mot de boxe, hein, vous appréciez
évidemment
cette retraite annoncée du Britannique Tyson Fury, 3 semaines après sa défaite face à l'Ukrainien Usyk. Mais bien sûr, comme ce n'est pas la première fois, on n'est pas obligé de le croire.
À suivre donc.
À suivre.
Merci Olivier Pron pour ce journal des sports. Il est 20h20 à Jérusalem. Le Proche-Orient, à présent, est la question de la justice internationale qui agite le conflit à Gaza. Avec cette question, quelle réponse demain aux accusations formulées ? Rappelons qu'un mandat d'arrêt a été émis par la Cour pénale internationale à l'encontre du chef du gouvernement israélien Benjamin Netanyahou et de son ex-ministre de la Justice, Yoav Gallant. Mais parallèlement à cela, les plaintes pour crimes de guerre à l'encontre des soldats se multiplient. Bonsoir Agnès Rotivel.
Bonsoir.
Du service Monde du journal La Croix. C'est un sujet que vous traitez dans votre édition à paraître demain mardi. Tout d'abord, qui est visé par ce type de plainte ?
Alors, toutes ces plaintes visent en fait maintenant des soldats. On savait, comme vous venez de le dire, que ces plaintes touchaient des personnalités comme Netanyahou ou comme son ministre de la Défense. Mais la fondation Hind Rajab, qui tient son nom de cette petite fille de 6 ans, une petite palestinienne qui a été tuée lorsqu'elle fuyait avec 6 autres membres de sa famille, et elle s'est retrouvée toute seule, elle n'a plus de famille. Et la fondation Hind Rajab, qui est basée à Bruxelles, vient d'ouvrir une dizaine de plaintes contre des soldats israéliens qui postent sur les réseaux, leur entre guillemets au fait pendant la guerre contre Gaza. Et la question s'est posée pour l'un d'entre eux qui s'appelle Yuval Vagdani et il était en vacances au Brésil. Et quand l'ambassade d'Israël l'a appelé et pour lui dire qu'il allait être probablement, il pouvait être arrêté s'il ne quittait pas le pays parce qu'une enquête a été ouverte contre lui par un tribunal local, donc brésilien, après qu'une plainte ait été déposée à son encontre par la fondation Hind Rajab.
Quels sont les faits qui lui sont reprochés à ce soldat, par exemple ?
En fait, il a été accusé, il a 21 ans, il a été accusé d'avoir participé à des démolitions massives d'habitations. Je vous lis hein, l'accusation, d'avoir participé à des démolitions massives d'habitations civiles à Gaza lors d'une campagne systématique de destruction. Ce qui est intéressant dans ces dossiers de jeunes soldats, c'est qu'un grand nombre d'entre eux, très fiers de ce qu'ils ont pu commettre pendant ce conflit, postent sur les réseaux des images où ils se mettent en scène devant des bâtiments qu'ils ont détruits, devant des quartiers complètement bombardés. Et ce sont autant de preuves, d'éléments de preuve qui sont utilisés après pour des plaintes.
Oui, on peut citer par exemple cette légende qui accompagne une photo de ruines au coucher du soleil. « Rasé, c'est mieux pour toi, Rafah », fin de citation. « Magnifique, oui. C'est ça la joie de la vie ». Célèbre des soldats après avoir fait exploser un quartier. Agnès Rotivel, est-ce qu'il n'y a pas le risque que des individus portent le poids d'une responsabilité politique ?
Bien sûr, ils portent certainement le poids d'une responsabilité de leurs dirigeants, en l'occurrence Netanyahou, son ministre de la Défense et en gros une partie de son cabinet, mais c'est aussi leur responsabilité. Je veux dire que pour certains d'entre eux, ils sont allés largement au-delà de ce que l'armée leur demande, parce que l'armée, évidemment, ne leur demande pas de commettre des exactions, mais pour certains, c'est véritablement des exactions qu'ils ont commises au-delà des ordres probablement de l'armée israélienne. Je voulais reprendre cette phrase de Kenneth Roth, qui est l'ancien directeur de Human Rights Watch, qui pointe sur X, au lieu d'insister pour que ces troupes ne commettent pas de crimes de guerre à Gaza, Israël les avertit de ne pas publier leurs actions sur les réseaux sociaux. Ça en dit long. Ça veut dire que l'armée est même au courant de ces exactions. De toute façon, elle suit ça sur les réseaux. Donc, elle a pu peut-être attirer l'attention des Israéliens sur les publications sur ces réseaux et sur le fait que des éléments israéliens pourraient exploiter ces publications, donc elle prévient les soldats, et qu'ils pourraient être poursuivis de façon judiciaire, mais ça ne les a pas empêchés, pour beaucoup d'entre eux, de les poster sur les réseaux.
Est-ce qu'on sait ce que ces soldats visés par ces plaintes risquent ?
Écoutez, ça rentre dans un ensemble de droits de la compétence universelle, ce qui permet à des juridictions nationales, donc en l'occurrence dans le cas de ce soldat qui était au Brésil en vacances, c'est une juridiction brésilienne qui estime avoir le droit de connaître d'un litige qui a été commis dans un autre pays, en l'occurrence en Israël, sur la plainte déposée par quelqu'un. Qui doit être probablement un Palestinien qui a peut-être la nationalité palestino-brésilienne. C'est ce qu'on appelle la compétence universelle.
En termes de peine, sur quoi ces plaintes peuvent-elles aboutir ?
Ils vont bénéficier d'une aide de l'armée israélienne, c'est sûr. Il y a déjà, on sait, c'est le quotidien israélien Haaretz qui l'explique, une équipe qui regroupe le parquet général militaire, le ministère des Affaires étrangères, le Conseil de sécurité nationale et les services de renseignement intérieur vont devoir analyser les risques courus par les soldats, surveiller les enquêtes, et évidemment assurer une aide juridique à ces soldats pour qu'ils ne soient pas inquiétés.
Accusés de crimes de guerre des soldats israéliens visés par des plaintes à l'étranger. Votre article a retrouvé ce mardi dans La Croix et sur votre site internet, évidemment. Merci Agnès Rotivel.
Merci, au revoir.
Allez, ce sera dans une semaine tout pile l'investiture aux États-Unis de Donald Trump. Ce sera évidemment à suivre hein, sur Radio France Internationale en direct à 7 jours de cet événement qui va concentrer toute l'attention de la planète. On va s'arrêter sur l'une des clés de la victoire de Donald Trump à cette présidentielle américaine. Le républicain a su élargir sa base électorale. On l'a vu dans différentes tranches de la population. Exemple, les jeunes. Chez les jeunes, alors c'est Kamala Harris, certes, qui a remporté le plus de voix, mais moins que les candidats démocrates des précédentes présidentielles. Voilà la preuve que Donald Trump a su s'adresser à ses électeurs jeunes. Reportage à Atlanta, Edouard Maille.
Chez Skylar Akins, des portraits de l'ancien président démocrate Kennedy sont affichés au mur, ainsi qu'une photo de Skylar avec Kamala Harris, prise avant 2020, l'époque où il votait encore démocrate. Aujourd'hui, désormais vice-président des jeunes républicains d'Atlanta, il constate un engouement jamais vu pour son parti.
On vient d'avoir notre fête de Noël et on n'a jamais eu autant de personnes, on n'a jamais eu autant de sponsors. Le soutien pour les jeunes républicains est tout simplement à un niveau historique.
Ce succès, estime Skyler, provient surtout du programme économique de Donald Trump.
Il voit que pendant le dernier mandat de Donald Trump, tous les indicateurs économiques étaient meilleurs quand il était président. Tout était moins cher et les taux d'intérêt étaient plus bas.
Sur une voie piétonne à Atlanta, Matt, 30 ans, se promène devant des restaurants et magasins. Il a voté pour le parti libertarien, mais se dit optimiste du mandat de Donald Trump.
La dernière fois, il s'était mal entouré. J'espère qu'il le sera mieux cette fois dans son administration pour qu'il le mette sur la bonne voie.
Pour Matt, les interviews accordées par Donald Trump à des podcasts ont contribué à son succès.
Il s'est pris au jeu et s'est dit « les médias traditionnels ne proposent pas de discussion de 3 heures ». Je pense que ça l'a vraiment aidé avec ses électeurs, de pouvoir s'installer et discuter pendant 3 heures. Ça a changé les choses. Je ne dis pas que je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit, mais ça a permis de le rendre plus personnel.
Tyler, 31 ans, a voté démocrate et se dit inquiet, mais il a vu la popularité de Donald Trump augmenter dans son entourage.
Un de mes meilleurs amis a voté pour Donald Trump. Il vit en Californie. Il a toujours été un démocrate et a voté pour lui pour la première fois. Il en a juste marre des politiques en Californie. Une part importante de ma génération lit et regarde les infos plus que jamais. Et il voit les politiques des démocrates au pouvoir qu'il n'aime pas. Et ça les pousse vers Donald Trump. Je pense que la criminalité, la délinquance et l'immigration sont importants. L'impression dans les médias, c'est que les démocrates tolèrent le crime et la délinquance. Si c'est vrai ou pas, c'est à chacun de voir.
Mais les jeunes ont moins voté qu'aux dernières élections. Selon des estimations du centre de recherche Circle, la participation des personnes entre 18 et 29 ans était de 42%, 10 points de pourcentage de moins qu'en 2020. Edouard Maille, Atlanta, RFI.
RFI, 19h. Bientôt 29 minutes, ici à Paris. Dans une minute, ce sera la première édition d'Afrique Soir avec Sylvie Berruet. Et puis j'en profite pour vous donner le programme, parce que votre session d'info, évidemment, elle se poursuit sur Radio France Internationale. À 19h, temps universel, le journal international, 19h10. Votre session reportage, Accent d'Europe, à Madrid, la capitale espagnole, où les jeunes ne peuvent plus se loger. Restez à l'écoute de RFI.
Appelez-nous, exprimez-vous.
Juan Gomez.
Tous les jours à 8h10 TU, la rédaction de RFI répond à vos questions. Vous souhaitez un complément d'information pour mieux comprendre et décrypter l'actualité? Rejoignez-nous dès maintenant sur notre page Facebook RFI Appel sur l'actualité et au standard 33 9 693 693 70.
Retrouvez dès demain Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI. Demain sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
Elle transforme des tombereaux d'insultes en spectacle. Elle fait du beau avec du lait, la haine grossophobe et homophobe. Dans le spectacle, Surveillée et punie, la chanteuse Safia Nolin nous confronte à un des maux du temps, le harcèlement en ligne.
Sur le Pont des Arts, avec Nathalie Amar. Du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.